Et il est 19h23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Mardi, avant-hier, l'Espagne a donc présenté un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses qui, s'il était voté, serait le premier en Europe. Quand le Japon, entre parenthèses, l'Indonésie, la Corée du Sud, par exemple, ont donné l'exemple depuis bien plus longtemps. Ailleurs, plus près de chez nous, on y pense, on essaye, on tâtonne. Certaines entreprises ont instauré ce congé menstruel chez nous en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis aussi. Et c'est grand 1, une sacrée bonne nouvelle. Parce que les règles, ça n'a rien à voir avec un petit filet d'eau bleu clair sur une serviette hyper mince, comme on nous le raconte dans les pubs. Les règles, parfois, c'est compliqué et c'est douloureux. Les règles, au moins, avec une loi de ce type, on en parle, on ne ferme plus les yeux en demandant aux femmes de prendre 2 Doliprane et 1 Spasfon. Et les femmes elles-mêmes arrêtent d'aller se réfugier aux toilettes pendant la pause pour se donner au moins le droit de se plier en deux quelques minutes. Et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, grand 2, c'est une fausse bonne idée parce que, à moins de souffrir d'endométriose, une vraie maladie, et on en parlera, nous voilà revenus des années en arrière quand les féministes se sont appliquées à déconstruire l'impact des spécificités féminines dans le travail qui justifiait justement des inégalités salariales. Parce que nous voilà renvoyés à notre corps et le cortège de stéréotypes qui va avec. Parce que j'ai pas envie que mon patron connaisse la date de mes règles. Bref, un vrai sujet, un joli débat qui parle de notre époque. C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Hélène. Bonsoir et bienvenue, Hélène.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, je suis très honorée, mais bon, moi, mon expérience, c'est que je n'ai jamais eu de règles douloureuses. Et par contre, j'ai 57 ans maintenant. Mais tout au long de ma carrière, j'ai dû manager des jeunes femmes qui, elles, avaient des règles douloureuses. Et elles venaient au travail, mais pliées en deux ou en trois. Et c'était, ok, ma chérie, c'est tes règles, bah, rentre à la maison, s'il te plaît. Et puis, bah, pas de système, absolument aucun système. Donc, pas moyen, et je l'ai vécu en France, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Aucun moyen de dire, bah, elles sont en congé maladie normal, quoi. C'était vraiment moi, en tant que manager femme, qui leur disait, ok, je te maintiens ton salaire, il n'y a pas de souci. Tu vas avoir 2-3 jours comme ça, après tu reviens, tout va bien.
Et est-ce que vous pensez...
Je me suis dit...
Pardon, allez-y Hélène, pardon.
Non, je me suis dit, mais si elles avaient eu un homme comme manager...
Eh ben c'est la question que j'allais vous poser. En fait, vous voyez, nos pensées se sont croisées. C'est vraiment la question que j'allais vous poser. Est-ce que si vous aviez été le manager et pas la manageuse, est-ce que les choses auraient été différentes? Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Hélène, et d'entamer pour nous ce débat que nous allons avoir avec vous jusqu'à 20h avec Élise Thiébaud. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes autrice de Ceci est mon corps, petite histoire des règles, celles qui les ont et ceux qui les font aux éditions La Découverte. C'était publié en 2017. Ophélie Latil et également bonsoir. Vous êtes fondatrice du collectif Georges Edsand et directrice du cabinet de conseil en égalité Les Damoiseaux. Je voudrais vous faire réagir toutes les deux au témoignage d'Hélène. Élise Thiébaud, si vous voulez, pour commencer. En effet, les choses auraient probablement été très très différentes si Hélène s'était appelée Maurice.
Le croyez-vous ? Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Et je trouve que c'est pas tellement le sujet.
Ce qui est, et encore que, en parler, c'est aussi désacraliser cette histoire des règles, non?
J'ai eu beaucoup de témoignages, effectivement, quand des femmes avaient des règles douloureuses qui arrivent à, on va dire, 60% d'entre elles, quand même, au cours de la vie. Alors, ça peut être au début de sa vie menstruelle, ça peut être plutôt à la fin, par exemple dans les 10 années qui précèdent la ménopause, où on peut avoir des cycles anarchiques, hémorragiques, très difficiles. Et quand on évoque cette question-là, très souvent, les hommes préfèrent ne pas le savoir, ne veulent pas en entendre parler. On est conditionné comme ça. Dès nos premières règles, on nous dit, voilà, ça y est, tu es devenue une femme, première nouvelle.
Et c'est pour ça que notre amie Hélène est en plein dans le sujet.
Voilà,
en fait.
Et deuxième nouvelle, par contre, de cela, tu ne parleras pas, on ne te dira rien. Et si tu as mal ou exagérément mal, tu prends un Doliprane et c'est fini. Et surtout, tu ne l'évoques pas. Ça, c'est la première difficulté. Mais... En fait, il y a une autre chose plus importante, je trouve, à réfléchir. On a vu pendant l'épidémie de Covid, 80% des personnes qui exercent des missions essentielles, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui font des métiers très mal payés, très important, qui les sollicite physiquement énormément, qu'il s'agisse de se lever à 3h du matin pour aller faire le ménage, d'être aide-soignante, aide-ménagère, infirmière de nuit. Bon, toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Donc, c'est au-delà de la question de la grave maladie ou des graves douleurs. Il y a une réalité de nos corps qu'il serait temps d'arrêter de nier sous prétexte que ça répond à des préjugés. Ce qu'il faut, c'est déconstruire les préjugés, mais aussi regarder et vivre nos corps à partir de celles qui sont les plus en difficulté, des personnes les plus en difficulté. C'est comme ça qu'on fait, des lois pour le bénéfice du plus grand nombre.
Mais réalité de nos corps qui n'a rien à voir pour le coup avec le type de travail qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est une réalité sur ce que vous dites et les femmes qui ont qui sont les caissières, etc. Mais enfin, ça marche exactement de la même manière. Ophélie Latil, vous m'arrêterez si je me trompe. Si on est cadre supérieur, prof ou quoi que ce soit d'autre,
Non, ça va pas forcément avoir le même impact parce que bien évidemment, vous avez des femmes qui vont se retrouver en permanence sans temps de pause quand vous êtes en caisse, on vous laisse pas ce temps de pause pour aller changer de protection menstruelle. Souvent, c'est décompté de votre, on va le supprimer de votre temps de travail. C'est quelque chose qui est très présent en fait dans les entreprises. Notamment, il y a un accès très limité aux toilettes, notamment sur tout l'ensemble, le panel des protections menstruelles. Vous avez notamment tout un certain nombre de choses qui nécessitent vraiment d'avoir un lavabo et du savon et tout ce qu'il faut en termes d'hygiène pour pouvoir être dans des conditions optimales sur son cas de travail. Donc non, en fait, être cadre et être caissière, ça ne va pas avoir le même impact. Et je pense par ailleurs, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que ce n'est pas le fait d'avoir une femme manager qui va la rendre plus propice à comprendre la douleur. Déjà parce que vous avez des femmes managers qui n'auront en effet pas de douleur menstruelle. Et donc du coup, elle va dire, moi ça m'arrive pas, donc c'est pas grave. Et à l'inverse, vous aurez des personnes qui vont prendre en compte cette douleur-là et la prendre en compte différemment dans l'entreprise. Donc s'il y a quelque chose sur lequel on doit s'extasier, c'est la prise en compte peut-être aujourd'hui dans l'entreprise de l'amélioration de la qualité de vie au travail qui impacte la santé des femmes.
Et alors c'est intéressant parce que la douleur c'est une chose, mais j'ai l'impression que la douleur est un sujet et l'accès qui est aussi important, mais est vraiment un autre sujet. À des toilettes effectivement quand il le faut, à des temps de pause aussi souvent qu'on en a besoin, etc. On est sur deux sujets un peu différents et en même temps on dit la même chose. Est-ce qu'on se dit que il faudrait d'abord améliorer dans cette direction-là et que du coup le problème serait nettement moins un problème si de toute façon le problème d'accès ne se posait pas une seule seconde. Allez-y, Ophélie Latil.
Alors oui, alors ce que je voulais justement dire sur la question de la prise en charge de la douleur, c'est que un vrai stéréotype lié aux règles, c'est que c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Sauf que la douleur n'est pas une fatalité, comme le disait Élise Thibault tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes qui ont leurs règles. Alors souvent on dit un tiers, mais ça va jusqu'à 60% si on prend en compte les différents temps de vie d'une femme sur son cycle. Sauf qu'en fait, c'est pas normal d'avoir mal. Donc on pourrait soigner ça. Et donc là où moi je suis dans un regard assez nuancé sur le congé menstruel, c'est que justement, la douleur n'étant pas une fatalité, renvoyer une femme à la maison dès qu'elle a mal...
Donc c'est la renvoyer à sa douleur, vous pensez?
C'est la renvoyer à sa douleur, c'est-à-dire cacher cette douleur que je ne saurais voir, et c'est du coup ne pas soigner. Or, pour moi, ce qui est fondamental, c'est la prise en charge du soin, et cette prise en charge, elle peut en effet être prise en compte dans l'entreprise avec des endroits où les gens peuvent se poser, s'allonger, des toilettes qui sont propres, mais aussi une vraie prise en charge par les systèmes de santé, par les mutuelles, par l'entreprise, et donc du coup, c'est dans le cadre ou des accords d'entreprise ou du dialogue sociale interbranche que ça va se situer.
Élise Thibault, là-dessus, je reviens sur ce que vous dites, parce qu'on a fait un sujet ici même sur l'endométriose il n'y a pas si longtemps. Effectivement, le premier sujet qui revenait, c'était non seulement c'était le traitement de la douleur, et c'était aussi être capable d'identifier les choses réellement, ce qui permettait d'avancer évidemment tellement plus vite. Là-dessus, Élise Thibault, est-ce que ce que vient de dire Ophélie Latil?
Alors, la question de la douleur, elle est extrêmement variable et difficile à évaluer pour les autres. Moi, j'ai envie plutôt de penser à la question du confort et de la considération qu'on va apporter aux salariés. C'est une obligation de l'employeur de faire en sorte que sur le lieu de travail, on ait des conditions correctes. Alors, ça passe par avoir des lieux de repos pour les personnes qu'ils peuvent avoir un accès au télétravail si elles le souhaitent. Ça passe par avoir des protections périodiques dans les toilettes. Je ne sais pas si vous en avez à France Inter, mais moi je demande dans tous les endroits où je vais, mais c'est hallucinant. C'est quelque chose qui va nous arriver pendant 2400 jours en moyenne dans nos vies. Ça représente une somme relativement considérable. Les femmes, on le sait, ont 25% de revenus en moins. Et en plus, quand les règles arrivent, on ne sait pas où se procurer des protections périodiques. Donc l'entreprise peut faire beaucoup de choses pour l'égalité. Et puis après, j'ai envie de dire aussi que il y a pas que les femmes qui ont des vies hormonales et que c'est peut-être aussi l'occasion de dialoguer sur cette question-là.
Alors, que sortir du tabou, là, pour le coup, c'est ce qui met tout le monde d'accord. Qu'on soit pour ou contre un congé menstruel, au moins être capable d'en parler de manière très ouverte et très simple, là, pour le coup, on a non seulement des progrès à faire, mais peut-être que ce genre de débat-là dans les entreprises permettra au moins d'avancer là-dessus.
Oui, tout à fait. Enfin, là, on est vraiment d'accord là-dessus. On est complètement en phase avec Élise. C'est que le fait de sortir dans l'espace public ce discours sur les règles en disant ce n'est pas un tabou et maintenant on va prendre en compte le coût, la composition, enfin nous c'est le travail qu'on a fait nous avec Georgette Sand, donc du coup de lobbying pour baisser la TVA pour avoir maintenant la composition qui sera donc rendue publique au 1er janvier 2023, c'est vraiment tout un travail pour diminuer la charge menstruelle dans la société et faire en sorte que maintenant on arrête de se cacher, que ce soit dans l'entreprise ou dans sa famille. Et ça vraiment c'est là où nous on se félicite en disant il faut le faire rentrer, mais en dissociant parfaitement la question de les règles qui sont un sujet dont on doit parler, qui n'est pas un tabou, et le fait qu'à un moment, il y a une maladie qui s'appelle l'endométriose, qui s'appelle le syndrome d'ovaire polykystique, et celui-ci est une maladie, il doit être traité comme tel, mais dire que les femmes sont malades quand elles ont leurs règles, là, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir et proscrire.
Oui, mais d'ailleurs, la loi espagnole, elle ne s'adresse qu'aux femmes qui ont des règles douloureuses, voire très douloureuses, 3 à 5 jours par mois. Et là, en fait, ça crée une stigmatisation qui est problématique aussi. Si on se centre sur une catégorie de personnes, à ce moment-là, ces personnes vont se trouver dans une situation d'employabilité moindre, où, en fait, comme les personnes qui souffrent de maladies chroniques, elles vont être dans une certaine difficulté. C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt envie que ça rentre dans un débat banalisé, avec un congé menstruel. Alors, je le dis quelquefois, ça choque beaucoup, mais qui soit accessible à toutes et tous, quel que soit le sexe, le genre et l'âge, sous la forme de RTT, qu'on pourrait solidairement partager pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, j'explique ça existait ça, en fait. Ça existait dans l'administration publique des douanes. En 1914, les soldats sont partis au front. Des femmes les ont remplacées. Elles se sont aperçues que tenir le poste frontière, les jours où on avait ces règles, c'était compliqué. Elles ont obtenu un congé pour indisposition. Quand les hommes sont revenus, souvent des mutilés de guerre, des personnes en grande difficulté, ils ont demandé à obtenir la même chose. Ils l'ont obtenu, ce congé pour indisposition. Il a duré, je crois que c'était une dizaine de jours par an, et tout le monde pouvait le prendre indifféremment. Et je pense que c'est ça, en fait, un vrai progrès social.
Donc c'est une espèce de... Dans l'un des papiers que je lisais pour préparer cette émission, quelqu'un parlait d'un congé de vie, en fait. Donc on met tout le monde à l'intérieur de ce même package de congé de vie. Et au fond, alors on fait confiance évidemment aux salariés, et que ce soit pour règles douloureuses ou pour migraines chroniques extrêmement fortes, etc., tout ça est dans le même package. Qu'est-ce que vous dites de ça, Ophélie Latil, avec votre casquette de juriste en plus?
Avec la casquette de juriste, justement. Moi, c'est ça qui fait qu'à un moment, moi, la question du congé menstruel m'inquiète, parce que je me dis, qui sont les plus sensibles sur le marché du travail, ce sont les femmes seniors. Qu'est-ce qu'elles vont faire si un congé menstruel? Est-ce qu'elles doivent déclarer leur ménopause au RH? Vous voyez, enfin, moi, je suis dans ces trucs-là en me disant, mon Dieu, on est déjà stigmatisé sur le marché du travail
bien,
avec, voilà, l'état de grossesse, la situation féminine. Il y a beaucoup de choses où on est plus vulnérable. Donc, non, en fait, il faut faire très attention à ne pas stigmatiser encore davantage. Mais en effet, ces congés maladie qui pourraient exister pour tous sont un moyen de casser cette mécanique discriminatoire. C'est ce que, notamment, un autre argument, là, je réavance un argument historique, c'est celui de Clara Zetkin qui avait dit à un moment, bah c'est super, donc on est à la fin du 19e siècle, et elle explique, vous voulez en fait supprimer le travail de nuit pour les femmes, sauf qu'en fait, c'est le seul endroit où elles peuvent travailler, elles sont mieux payées, enfin payées comme les hommes, et donc du coup, vous leur enlevez la possibilité de s'émanciper financièrement. Et donc voilà, le risque, c'est que le congé menstruel, en prenant en compte à un moment une difficulté sur le marché du travail, en fait, en rajoute, puisque là, les femmes vont se retrouver à la maison. En revanche, il y a aux États-Unis, notamment, les congés, ce qu'on appelle les sick days, les congés maladie, c'est une dizaine de jours par an que vous prenez, parce que vous avez la gueule de bois, vous avez mal, vous avez vos règles.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, ces sick days, ils sont assez utiles parce que vous pouvez les prendre sans le délai de carence qui vous oblige à aller chez le médecin. Donc, si à un moment, vous êtes coupé en deux parce que vous avez mal, et en plus, sur la question notamment des règles douloureuses, vous avez les règles, vous avez aussi les migraines qui touchent donc beaucoup les femmes. Donc là, vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin en rampant parce que vous avez mal pour avoir votre arrêt maladie. Donc, ces congés-là, ils se prennent sans délai de carence, vous en avez 10 par an. Et en plus, c'est vrai que là, vous pouvez les donner aux hommes avec un biais évidemment négatif, c'est qu'aux États-Unis, se sont rendus compte que les femmes les prenaient et que souvent s'occupaient quand même des enfants et du ménage à la maison, et que les hommes les prenaient pour la gueule de bois.
Bravo. Cécile est avec nous. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Moi au départ, quand j'ai entendu parler de congé menstruel, vu que j'en avais souffert, j'ai dit formidable. Et puis j'ai réfléchi. On est dans un monde du marché du travail qui est compétitif. Et nous avons déjà une difficulté en tant que femmes. Parce que d'abord, nous sommes femmes. Nous avons le congé maternel. Comme en plus, parfois, nous avons la charge des enfants, nous prenons aussi un jour par semaine, par exemple le mercredi. Si en plus, on prend un congé menstruel, alors qu'en plus, il me semble que c'est quand même de l'ordre médical, et donc c'est un secret pour moi, eh bien, écoutez, ça va nous pénaliser encore plus. Donc moi, je serai un peu dans ce que j'ai entendu là, il y a 2 minutes, je crois, une journée ou deux pour liberté personnelle. Voilà. En tant que femme, parce que c'est vrai que malheureusement pour l'instant, nous sommes malheureusement dans la difficulté des cycles menstruels, de la maternité, de la charge mentale. Et donc voilà, une ou deux journées pour liberté personnelle, on n'aurait pas à justifier, on n'aurait pas à aller chez le médecin, et voilà, on ne serait pas non plus sanctionné.
Merci beaucoup Cécile, c'est vraiment la solution qui fait que tout le monde tombe d'accord, Élise Thiébaut. En effet, pourquoi être obligé de dire à son patron, je m'en vais parce que j'ai des règles douloureuses?
Ah mais c'est un scandale, on a droit à une vie privée, mais on a le droit aussi à avoir des moments. En fait, c'est l'idée pour moi, c'est de remettre le vivant, la santé, le corps dans nos vies et d'en faire une priorité. C'est pas l'efficacité, le profit, etc. C'est le bien-être. C'est plus que, c'est vraiment la notion de l'OMS de la santé. Enfin, la conception, c'est ce n'est pas ne pas avoir de maladie, c'est un état de bien-être. Et quand on pense la maladie ou quand on pense la santé en termes de bien-être et pas en termes de stigmatisation ou de douleur, eh bien, ça change complètement la conception. Et puis, ça met tout le monde dans la même situation. Ça va éviter de effectivement stigmatiser les femmes de la même manière que moi. Je pense que le congé maternité, même si la maternité ne passe pas par le corps des hommes, eh bien, il devrait être d'une durée équivalente pour les femmes et pour les hommes.
Isabelle est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute Isabelle.
Donc moi je suis tout à fait favorable à cette sorte de congé, surtout celui qui vient d'être énoncé, la condition...
Faut qu'on appelle les Espagnols, faut leur dire de changer leur loi.
Non mais à la condition que ce soit bien un congé rémunéré.
Bien sûr.
Je pense qu'il y a quelque chose d'important par rapport à la qualité de vos travail. Ça a été dit, il me semble, que dans les toilettes, il puisse y avoir des lavabos, mais dans les toilettes, parce que moi, par exemple, j'utilisais des cups, et il y avait certains endroits dans certaines entreprises où finalement, dans le WC, il n'y a pas de lavabo.
Ouais.
Donc du coup, avec l'utilisation des cups où de plus en plus de femmes les utilisent, parce qu'écologiquement, c'est mieux, on est très, très, très embêtés. Et donc, je vous dis, au passé, j'utilisais. Donc moi, maintenant, je suis en période de périménopause et je pense que c'est une période qui est hyper difficile au travail parce qu'on a des bouffées de chaleur, on est très fatigable, etc. Et ce qui m'embête, c'est qu'on parle surtout congé menstruel et je trouve, pour ma part, que la période de périménopause est beaucoup plus difficile au travail que la période de règles. Voilà.
Merci pour cette remarque, pour ce coup de fil, Isabelle. Et c'est vrai que plus on entend les auditrices, surtout d'ailleurs, et on vous entend vous aussi toutes les deux, plus on se dit que c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler. En tout cas, si d'aventure ça existait en France, c'est surtout pas congé menstruel qu'il faut l'appeler. On fait un contresens, au fond, Ophélie Latil.
Oui, il y a un contresens parce que du coup, il est tout de suite perçu de manière extrêmement... les gens ont une réaction souvent de rejet face à ça, qui est vraiment celui de la discrimination. Mon Dieu, on va encore rajouter une discrimination. Il y en a déjà 25 qui sont sanctionnés par la loi, on va en rajouter encore une. Alors que le fait de mettre le congé menstruel, c'est vraiment éloigner les personnes du dialogue dans l'entreprise. Alors que, comme le disait tout à l'heure Élise, en fait, on veut mettre justement la question dans l'entreprise. Et donc voilà, on veut empêcher les femmes de se balader avec leur coupe menstruelle dans l'open space. On veut qu'il y ait des distributeurs parce que typiquement, alors on parlait du Japon, mais là-bas, il y a des distributeurs de tampons et de serviettes partout.
Mais le congé n'est pas rémunéré. Tout à fait. Celui qui existe depuis 1947 est 0,1 1% seulement des Japonaises le prennent.
Et en Corée du Sud, il peut être rémunéré, mais c'est dans des accords d'entreprise. Donc c'est vraiment pris en charge dans les mutuelles. Et donc, une fois encore, pour moi, la question du dialogue dans l'entreprise, c'est de casser le tabou sur le rapport au corps. Mmh. Et donc, qui dit rapport au corps, dit rapport aux soins, dit se rappeler, en fait, c'est quoi, en fait, pourquoi il y a un moment, il y a un problème encore qui crée des douleurs menstruelles. C'est un problème au niveau de l'utérus, c'est un problème viscéral. Ça peut se soigner avec des médecines douces, ça peut se soigner avec du sport. Et on l'oublie encore, mais ça peut se soigner aussi avec la masturbation. Mmh. Voilà, autant de sujets. Je suis ravie de parler de ça.
Mais je vous en prie, en allez-y.
Mais vraiment, ce sont des sujets tabous dans lesquels, sur lesquels on ne parle pas et qui permettent quand même de régler certaines difficultés.
Mais cela dit, c'est marrant parce que on fait un sujet là aujourd'hui sur le congé menstruel, en fait, puisque c'est comme ça qu'il est intitulé dans les pays où il existe, donc sur l'extérieur du lieu de travail. Et à chaque question, hop, vous nous ramenez à l'intérieur du lieu de travail. Preuve qu'effectivement, peut-être qu'on prend le problème à l'envers, en fait. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, Élise Thiébaut.
Absolument. Il y a la manière de remettre sur la table cette question, d'en faire une conversation publique, c'est vraiment une espèce de coming out menstruel, c'est-à-dire dire ah oui, bah les, il se trouve que nous avons des règles, il se trouve que il y a
et qu'elles sont pas bleues,
que toute la narration autour de ces règles est marquée par des superstitions, des préjugés, de la stigmatisation. Dès qu'on est de mauvaise humeur, il ne viendrait jamais à l'idée de personne de demander à un homme qui s'énerve s'il n'aurait pas une poussée de testostérone liée à la production spermatozoïdes. Et pourtant, ils ont aussi des hormones, ils ont aussi des cycles, et on ne les aborde pas. Quand on en parle publiquement, on finit par aussi créer un dialogue avec les femmes et les hommes sur des questions qui nous concernent toutes et tous.
Regardez, Madeleine vous a entendu préventivement, si j'ose dire. Elle dit ceci sur franceinter.fr. J'ai des règles très douloureuses qui me fatiguent beaucoup et m'empêchent d'être trop longtemps debout quand elles arrivent. Je travaille comme ingénieur dans un domaine très peu féminisé. L'arrivée du télétravail avec le Covid m'a bien rendu service, mais ce qui m'aiderait vraiment, encore plus qu'un congé, dit-elle, c'est de pouvoir en parler librement, pouvoir dire à mes collègues, à tous les hommes, aujourd'hui que ça va pas, que je reste assise, sans craindre le jugement. Ce n'est pas... que ce ne soit pas un tabou, que je puisse signaler mon état, comme mes collègues le font quand ils ont un petit rhume, alors que moi j'en ai déjà avalé plusieurs, d'Espasfon et de l'ibuprofène 400. C'est exactement ça, en fait. Laissez-moi au moins en parler.
Et
peut-être que derrière, j'aurais peut-être moi-même...
Et c'est vraiment le truc du... Ça, cacher cette douleur que je ne saurais avoir, c'est vraiment ça. C'est un moment où on nous bourre du nurofène. Il y a le nurofène en plus maintenant qui est rose et qui coûte plus cher alors que c'est la même molécule. Et donc du coup, qui enlève la douleur, donc ça va arrêter de s'inflammer, mais pour autant, ça ne soigne pas le sujet. Et donc du coup, plutôt que de cacher par la médicamentation ou par la sortie de l'entreprise ou par le télétravail, qui pourtant est une solution aussi, qui peut être utile, évidemment, pour moi, il y a vraiment une question de prenons maintenant un dialogue où on se dit on veut des gens qui travaillent et qui sont en bonne santé. Et pour être en bonne santé, pour pouvoir parler de tout ce qu'on a, sans tabou, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit bon en médecine pour comprendre ce qui se passe, mais que tout le monde soit en capacité de dire, ben voilà, moi je fais des migraines, ben moi j'ai des règles douloureuses, moi je suis en préménopause, avec le sujet de, typiquement, comme c'est un tabou, on sait très bien que si on parle de ces règles, on va se prendre après, ah ben c'est pour ça que t'es de mauvaise humeur, et que si on dit qu'on est en ménopause, on va se retrouver dans une situation où on va être souvent ostracisé sur le marché du travail, et donc du coup, on va cacher et sa préménopause et sa ménopause, parce que ça veut dire ça, oulala, je sors. Et clairement, aujourd'hui, les femmes les plus victimes de harcèlement dans le milieu de l'entreprise, c'est les 58-62 ans qui sont clairement poussés vers la sortie. Donc en fait, après ça va mieux et avant ça va un peu mieux, mais clairement c'est cette tranche d'âge où clairement arrive la ménopause en général, elle est en train de se terminer, et les femmes donc vivent en fait un cycle où en fait elles ont souffert pour beaucoup de leur cycle, de leurs hormones, et là en fait cette période là arrive en plus et s'installe au même moment où elles se sentent plus aimées et désirées sur le marché du travail. Donc on peut pas faire en sorte de ne pas en parler. Il y a un moment où il faut casser ce tabou là.
Il y a une autre chose très importante sur la question de la douleur, c'est que des études très clairement montrent que plus on est stigmatisé, plus on est en situation de stress, plus on a mal. Et que moi, j'ai rencontré, après avoir écrit « Ceci est mon sang », un nombre de personnes incroyables me disant « Mais en fait, depuis que je l'ai lu, j'ai moins mal. » Parce que tout à coup, elles s'étaient autorisées à ressentir ça avec un peu plus de bienveillance. Elles n'étaient pas en lutte permanente, dans la crainte de recevoir des moqueries, de l'ostracisation, etc. Ça vaut d'ailleurs également pour la ménopause, où quand on a la possibilité de le vivre avec une certaine relaxation, eh bien, on la vit mieux, même si ça ne règle pas les problèmes de maladie véritable et importante qui, elle, nécessite une prise en charge médicale, comme tu l'as indiqué, Ophélie.
Nadège, bonsoir. Nadège ?
Oui, allô, oui.
Oui, oui, on vous écoute, allez-y. Ah,
donc moi, je souhaitais réagir, mais ça a été un peu évoqué par vos intervenantes et par vous-même, par rapport au fait que, pour moi, le congé menstruel ne résout absolument rien, je dirais même qu'il est pire, et que c'est pas normal qu'au XXIe siècle, on n'arrive toujours pas à traiter ces douleurs, et qu'on continue à vivre avec, que c'est trop cool, allez vivre votre douleur ailleurs, n'en parlez surtout pas, et comme ça, tout ira beaucoup mieux, et c'est pas admissible. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais j'ai ma fille aînée qui en souffre. Et je me dis, aujourd'hui, même son médecin généraliste ne sait pas répondre à ses problèmes. On lui file des calmants et c'est parti, mademoiselle, revenez le mois prochain. C'est pas admissible. Et le congé menstruel, oui, stigmatisation, encore et toujours. Et c'est tout ce que ça donnera. Et puis en plus, il y en a qui diront, moi j'ai pas mal quand j'ai mes règles, pourquoi il y en a qui ont des congés, pas moi.
Merci beaucoup Nadège pour ce témoignage. Alors elle a raison Nadège, des fois on se dit qu'il faudrait reprendre le problème à la racine en fait et se demander pourquoi cette douleur-là est un impensé de la médecine. Est-ce qu'on dit que c'est un impensé de la médecine réellement, l'une comme l'autre ?
Impensé, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des textes qui, sous l'Antiquité déjà, je crois que sous l'Égypte ancienne, parlent déjà de l'endométriose. Donc la question des douleurs menstruelles existe depuis très longtemps. Et en fait, on remarque encore aujourd'hui, ils avaient une femme sur 10 dont l'endométriose a été dépistée. C'est très compliqué.
Très tardivement,
c'est
par ailleurs. Entre les premières douleurs et le diagnostic, en général, il peut se passer des années.
C'est
même.
Ça. Il y a des femmes où ça arrive très tard, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, parce qu'elles sont arrivées plusieurs fois en disant « j'ai mal, je saigne beaucoup », on leur dit « c'est normal d'avoir mal ». Il y a un impensé de la douleur des femmes, c'est normal d'avoir... On est naturellement prédisposé à souffrir, vous comprenez, là on est des femmes, donc on doit souffrir.
Tu accoucheras dans la douleur.
Tu accoucheras dans la douleur, tu auras des règles douloureuses, c'est normal, tu es une femme. Et en fait, cette impensée de la douleur fait que, typiquement, ça fait combien d'années qu'on a eu un médicament pour faire bander les hommes qui ne bandent plus, alors qu'on n'a toujours pas trouvé un médicament qui permet en fait de soigner l'endométriose et les douleurs menstruelles. Et en fait, c'est pas pensé parce qu'il n'y a pas les mêmes budgets. Donc concrètement, il y a une refonte de la médecine. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur les questions de fiscalité, sur la question menstruelle avec Georgette Sand, en disant, ben voilà, maintenant, pourquoi les taux de TVA, ils sont à 20% sur les protections menstruelles, alors que les canettes de coca et le foie gras, c'est à 5%. Et à un moment, on s'est rendu compte que c'était un impensé dans tous les bureaux d'ingénierie fiscaliste à Paris, à Bruxelles, parce que c'était que des hommes dans ces magasins-là. Et en fait, la recherche aujourd'hui médicale ne met pas assez de budget sur ces questions-là. Donc il y a la question de la santé différentielle. Il n'y a pas que sur la question des règles, c'est aussi tous les médicaments sur le cancer du sein, par exemple, aujourd'hui, qui font des effets secondaires. Et tous les oncologues sont là en train de dire, mais c'est pas grave, bah voilà, tu auras mal, c'est normal d'avoir des effets secondaires. Et les femmes sont là en train de dire, mais il y a des effets secondaires, je souffre, j'en peux plus, je veux arrêter. Et les médecins disent, non, en fait, c'est pas si grave. Et ils sont sur les antennes de radio en permanence en train de dire, mais vous savez, on a trouvé un médicament miracle et on ne prend pas en compte les effets secondaires de ces médicaments-là. Et c'est pareil avec beaucoup de médicaments, notamment la sclérose en plaques qui soigne majoritairement les hommes, alors que les femmes sont majoritairement touchées par cette maladie. Donc voilà, il y a vraiment un sujet de prise en compte au-delà du congé menstruel de la santé des femmes.
Et c'est bien, ça va dans le sens de ce que dit notre amie Nadège, Élise Thiébaud. En effet, on est en train d'essayer de gérer le problème de la douleur en oubliant que le problème, effectivement, c'est pourquoi on a mal alors qu'on ne devrait pas avoir mal. Moi, je me souviens pour le dire avec le sourire du spectacle de Sophia Aram où elle disait si les hommes avaient leurs règles, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé une solution. Et on va pas passer pour d'horribles méchantes, mais enfin c'est un peu une réalité quand même, non, Élise Thiébaud ?
C'est complètement une réalité. La douleur n'est aujourd'hui, des études nous disent que quand une femme manifeste de la douleur par rapport à un homme, elle est soulagée deux fois moins vite et deux fois moins fort. C'est-à-dire qu'on lui prête une tolérance à la douleur, on ne réagit pas, mais même sur un bébé, on ne réagit pas aux pleurs de la même manière. Donc, et on est conditionné d'ailleurs à endurer véritablement ce qui affecte notre bien-être, notre qualité de vie et notre santé de façon considérable. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement... sur la santé des femmes, on sait très bien que, par exemple, jusqu'à une période extrêmement récente, les médicaments et les thérapeutiques n'étaient testés que sur des mâles, y compris chez les cobayes, parce qu'il y avait une conception qui, quand on y réfléchit, est d'une absurdité dingue, qui est que le mâle était considéré comme le standard et la femelle la variante. Et qu'en raison des cycles qu'on trouve chez les caractères femelles, c'était considéré comme une perturbation. Donc ça veut dire qu'on testait des médicaments sur des personnes qui avaient un fonctionnement métabolique différemment et qu'on ne se contentait pendant très longtemps de n'adapter que le poids hein, voilà, dans les posologies. Et ça, c'est véritablement parce que la médecine, eh bien, elle a été aux mains des hommes qui n'ont pas pensé cette question-là autrement que sous la forme du pouvoir et du contrôle, en fait, du corps des femmes.
Jeanne nous appelle de Brest et nous dit « Je suis favorable à ce que l'entreprise organise des aménagements au sein de la boîte plutôt qu'un congé qui éloigne la patiente, dit-elle, du travail. » Donc à la fin, tout le monde est d'accord sur le même sur ce même constat-là. Et Christopher est avec nous, on est content d'avoir un homme. Bonsoir Christopher.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, donc j'avais une question. Donc moi, je suis rentré dans la vie active depuis 5 ans. J'ai pas pris de congé maladie durant ces 5 ans. Par contre, voilà, il m'arrive de prendre du télétravail pour quand même assurer le travail malgré des fièvres ou des grippes. Et je me demandais si le télétravail n'était pas une partie de la solution pour les femmes qui pouvaient en prendre un. Voilà,
merci pour votre remarque, Christopher. Moi, je suis sûr que c'est rempli de bonnes intentions, la remarque de Christopher, et on comprend ce qu'il nous dit, et il a raison. Et en même temps, il y a un côté, puisque t'as mal, et puisqu'on veut pas voir, exactement ce qu'on dit tout à l'heure, puisqu'on veut pas voir, mets-toi en télétravail.
L'institutrice en télétravail, je vois pas comment ça marche.
L'agricultrice, pareil.
L'agricultrice, la puéricultrice, voilà.
C'est ça. En fait, c'est en effet pour certaines catégories de métiers, c'est une bonne idée de temps en temps. Mais on s'est bien rendu compte après 2 ans des effets pervers du télétravail imposé, avec beaucoup de femmes qui non seulement du coup ont pris en charge donc non seulement leur charge menstruelle à la maison toute seule, mais aussi les enfants. Et donc du coup, je sais pas si vous savez le différentiel dans les négociations 2 ans après le Covid où les femmes aujourd'hui ne négocient plus d'augmentation parce qu'elles culpabilisent en se disant oui mais des fois j'ai traîné chez moi, mais des fois je me suis occupée des enfants, alors que les hommes eux disent je me suis adaptée en temps de crise. Et donc, du coup, moi, je vais vous demander des augmentations. Ça crée un différentiel. Enfin, bref, on va voir les conséquences dans 2 ou 3 ans. Ça va être rigolo. Et en fait, oui, cacher les gens, cacher les règles, ça veut dire qu'on n'en fait pas un sujet. Ça veut dire qu'on renvoie à la maison. Il y a plein de femmes qui se cachent, quand, par exemple, quand, notamment pour les personnes qui sont de confession musulmane, quand vous faites le ramadan, parce que vous êtes fatiguée, notamment, vous, la plupart, les premiers jours de vos règles, normalement, vous ne faites pas le ramadan. Donc, il y a plein de femmes qui le cachent. Donc, elles rentrent chez elles, prennent des congés, ou elles sortent en cachette du bureau pour dire, ah bah non, mais du coup, comme j'ai mes règles, je vais pas le dire, bah du coup, je sors pour pas montrer que je gêne pas. Et en fait, il y a un moment, c'est important que ce soit un sujet et que tout le monde en parle, parce que c'est un sujet qui touche énormément de monde. Il y a quand même 800 millions de personnes qui ont leurs règles au moment où on parle. Donc c'est quand même en simultané beaucoup de gens dans une même entreprise. Et donc je pense que oui, c'est un sujet qui doit être traité par les hommes et par les femmes.
Et puis d'ailleurs, quand c'est douloureux et qu'on est malade réellement et qu'on ne peut pas travailler, le télétravail est aussi du travail. Donc au fond, à la fin, on se tire une balle dans le pied, en fait.
Et surtout que les femmes
disant, mais ne vous inquiétez pas, je peux télétravailler.
Donc, et la femme qui a culpabilisé parce qu'en fait elle a passé 2 heures en télétravail mais avec une bouillotte et pas bien, au final elle va culpabiliser, elle aura l'impression qu'elle n'aura pas travaillé, et donc du coup qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester plus tard, elle va pas demander d'augmentation de salaire, et donc ça va continuer d'augmenter les inégalités.
Et alors les expériences qui existent en France, parce qu'il y en a eu à Montpellier, il y en a eu à Toulouse, il y a certaines entreprises qui ont pris ces initiatives-là, et qui, c'est d'ailleurs assez intéressant, c'était le cas à Montpellier, on regarde, on attend un an, on voit comment ça s'est déroulé, puis on en tire des conclusions. Est-ce qu'on sait déjà à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on sait déjà si les femmes réellement ont envie, donc besoin d'en profiter? Est-ce qu'on sait si ce sont des expériences positives? Est-ce qu'on sait ça ou pas? On a du recul déjà ou pas du tout?
J'ai eu très peu de retours. Je crois que sur Toulouse, j'avais vu que tout le monde ne l'avait pas pris. J'ai pas plus d'informations que ça. Ça a été pris par certaines personnes.
Et est-ce que ça veut dire aussi que du coup on n'en parle pas du tout? Est-ce que il y a eu des tentatives de projets de loi, au moins des choses qui ont été écrites, ou est-ce que pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans pour l'instant?
Alors moi j'ai été sollicitée à l'Europe pour au Parlement européen pour tâter un peu le terrain pour voir si dans quelle mesure ça pouvait être intéressant, et en fait nous on a vraiment dévié très rapidement sur les questions économiques et le fait qu'il fallait mettre le paquet sur la recherche et le soin et le dialogue social. Pour nous, voilà, il faut la recherche sur les maladies de femmes, il faut du dialogue social. En effet, je pense que les entreprises qui ont mis en place ce congé menstruel sont des entreprises qui ont pris ça en compte. Peut-être qu'il y avait plus de femmes qui ont négocié les accords, notamment dans les organisations syndicales. Le fait est qu'aujourd'hui, dans les organisations, dans les branches professionnelles, vous avez souvent des hommes, ce sont une majorité d'hommes, souvent âgés, ou même des militantes âgées qui sont déjà ménopausées. Et quand vous voyez le sujet se poser en interne de « ce serait bien qu'on mette en place des soins, notamment médecine naturelle, acupuncture, ostéopathie, voilà, ou rembourser un peu le sport, le yoga qui permet en fait justement de débloquer un peu au niveau viscéral beaucoup de choses. Et les gens vous disent oui mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de me faire refaire les dents et les yeux. Et en fait c'est ça qu'il faut casser. En fait c'est cette dynamique où aujourd'hui on pense à la qualité d'un corps au travail qui est bien, qui est heureux, qui est épanoui en fait, qui est pas complètement stressé sur les gestes du quotidien, que ce soit en caisse parce qu'on est en train de percer les objets, c'est qu'à un moment il faut que le reste du corps soit bien. Ça passe par le dos, ça passe par le ventre, ça passe vraiment par tout l'appareil du corps qui tient la machine et qui fait que la personne est en bonne santé et donc elle est heureuse au travail, peut-être pas forcément, mais au moins en tout cas qu'elle vit en tout cas pas comme une difficulté, une souffrance.
Et Élise Thibault, est-ce qu'il faudrait, à votre avis, si on se mettait à mettre tout ça sur papier, est-ce qu'il faudrait que ce soit quelque chose de général ou diriez-vous que précisément parce que les entreprises sont toutes différentes, parce que le type de travail qu'on demande aux femmes et aux hommes est très différent, que ce serait finalement plus efficace si chaque entreprise, en fonction de sa spécificité, vraiment faisait des accords très spécifiques, donc entreprise par entreprise et pas à l'échelle du dessus? Qu'est-ce que vous dites de ça?
Moi, j'ai un petit peu des doutes sur la capacité des entreprises à prendre la main sur ce genre de choses parce que l'histoire nous montre que en réalité, si les entreprises ne sont pas contraintes, elles ne prennent pas ces décisions. Voilà.
Bon, écoutez, donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein.
Mais que le débat avance, c'est bien.
Mais voilà. Le débat, il existe. On peut en parler ici, ailleurs, et c'est bien. Puis on va suivre ce que font les Espagnols. Je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement toutes les deux et vous tous pour vos très nombreux appels.